Vous écoutez, on lit pour vous.
La vie sous Trump quand on est ado transgenre, une attaque quotidienne. Un texte de Gregory Walton de l'agence France Presse paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. Comme beaucoup d'amis de son âge, la vie de Lorelei Crean, 17 ans, se partage entre l'école, la recherche d'une université et les sorties. Mais avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, cette jeune personne transgenre se sent attaquée tous les jours et passe à l'action pour défendre sa communauté. Il se passe beaucoup de choses. J'ai l'impression d'aller à un événement chaque semaine, raconte Lorelei, en énumérant une liste de manifestations pour s'opposer à l'offensive du président des États-Unis contre la communauté transgenre. Cela me propulse dans l'action. Depuis février 2025, Donald Trump a mis un coup d'arrêt aux avancées des droits des personnes trans dans la société. Dès son investiture, il a proclamé qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin, et une seule vérité biologique. Première conséquence, la fin de toute mention neutre, X, sur les passeports ou certificats de naissance de certaines personnes qui ont reçu des documents officiels leur assignant un genre différent de celui qu'elles ont choisi. Avec d'autres, on s'est empressé de changer nos papiers avant que la mesure ne prenne effet, dit Lorelei dans un parc proche de son domicile dans le quartier de Washington Heights, à Manhattan. Mon nouveau certificat de naissance est arrivé par la poste avec un passeport de genre X. Mon existence est en quelque sorte en contradiction avec la déclaration de Trump, souligne l'ado. Poids. Donald Trump a aussi essayé d'interdire aux personnes transgenres de servir dans l'armée américaine, banni toute référence aux trans dans les conseils de voyage du Département d'État et puni les États américains qui autorisent les athlètes trans dans le sport. On reçoit tout le temps une nouvelle notification. Information urgente. Trump a encore fait quelque chose de fou ou d'illégal, raconte Lorelei. C'est quelque chose qui pèse sur nous tous, pas seulement sur moi en tant que jeune trans, mais sur tous mes amis, les personnes issues de la diversité, les autres personnes queers. C'est une attaque quotidienne. Concilier l'école, les visites d'université et l'activisme n'est pas toujours évident. Parfois, ce sont mes parents qui me disent « Non, tu dois faire tes devoirs. Je dois aller en cours, étudier. Je suis encore jeune, mais je dois aussi porter le poids d'une vie de jeune transgenre dans l'Amérique d'aujourd'hui », dit Lorelei. Pour son père, Nathan Newman, le fait d'avoir pu canaliser ses sentiments, non pas en se sentant désespéré, mais en voyant que c'est possible d'agir, c'est une bonne chose. Capitulation. Le choix de l'université est devenu plus compliqué. Alors que les droits des transgenres varient beaucoup entre États progressistes et conservateurs aux États-Unis. D'après l'organisation Human Rights Campaign, 26 États interdisaient déjà les thérapies hormonales de transition pour les mineurs quand Donald Trump est revenu au pouvoir. Il y a tellement d'universités situées dans des États qui ne me permettront pas d'accéder à des soins de santé ou dans lesquels je ne pourrai pas utiliser des toilettes qui correspondent à mon identité dès que je sortirai du campus, explique Lorelei en résumant. Selon l'État où je vais, je n'aurai pas de droit. Même dans l'État très démocrate de New York, au moins un réseau hospitalier a suspendu l'accès au traitement de transition pour les jeunes après que Donald Trump a pris des mesures pour les interdire pour les moins de 19 ans. Une capitulation pour Lorelei, selon qui c'était l'un des premiers signes que l'administration Trump allait être différente de tout ce qui s'était passé auparavant. Lorelei Crean ne se laisse pas abattre et veut continuer l'action, qui lui donne de l'optimisme. Les gens descendent dans la rue alors qu'ils ne le feraient pas d'habitude. Il y aura probablement une manifestation le 30 avril pour les 100 jours depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, à laquelle je participerai, mais pour l'instant, on se concentre sur les problèmes de la semaine. C'était « La vie sous Trump quand on est ado transgenre, une attaque quotidienne », un texte de Gregory Walton de l'agence France Presse paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
Une brique plus écologique conçue au Québec. Un texte d'André Laroche paru le 26 avril 2025 dans La Presse. Comment réduire l'empreinte carbone des immeubles? En créant une brique plus verte, se sont dit un architecte, un fabricant de produits de béton et un distributeur spécialisé en maçonnerie. Après 18 mois d'efforts communs, ils estiment avoir réussi leur pari. La brique Dual pourrait ressembler à n'importe quelle brique. Mis à part ses deux faces différentes, ses alvéoles nouveau genre et ses dimensions inhabituelles, nul ne pourrait soupçonner qu'il s'agit d'une pièce de maçonnerie hautement sophistiquée. Son principal attrait? Son bilan carbone est réduit de 20% par rapport à une brique conventionnelle, souligne fièrement Hugo Gagnon, architecte associé à la firme Neuf Architectes, entouré de Lucas Vallon, président du fabricant Permacon, et de William Webster, président du distributeur de produits de maçonnerie Webster et Fils. La brique Dual est née de la volonté de ces trois hommes de contribuer à la décarbonation de leur industrie, considérée comme très polluante. À elle seule, nos habitations seraient responsables de près de 40% des émissions de carbone à l'échelle mondiale, rappelle M. Gagnon. Ce chiffre est moindre au Québec, car nous bénéficions d'une énergie relativement plus propre pour le chauffage et l'éclairage. Par conséquent, les matériaux ont un impact plus important qu'ailleurs dans le calcul du bilan carbone opérationnel et intrinsèque d'un bâtiment, souligne-t-il. Réinventer la brique. En habitation, le béton figure tout en haut de la liste des matériaux de construction polluants. Le ciment nécessaire à sa fabrication génère trois fois plus de gaz à effet de serre, GES, que l'ensemble du transport aérien, selon l'Association mondiale du ciment et du béton. C'est pourquoi on s'est dit qu'il serait pertinent de s'attaquer à ce matériau-là, indique Hugo Gagnon. Pas question de l'éliminer, mais plutôt de l'améliorer, précise-t-il toutefois, en rappelant que le béton combine la force, la densité, l'expression, la maniabilité et la durabilité comme aucun autre matériau. Comment alors conserver ces avantages en réduisant l'impact environnemental? En créant une nouvelle brique à prix compétitif, appréciée autant par les architectes que par les maçons, et dont l'empreinte carbone serait réduite de 30%. Un objectif ambitieux, reconnaissent aujourd'hui les trois partenaires. Il y avait beaucoup de cases à cocher, résume William Webster, sourire en coin. Pour réussir ce tour de force, ces trois dirigeants ont vite réalisé qu'ils ne pouvaient pas travailler chacun de leur côté. Il leur fallait mettre en commun leurs expertises respectives dans un réel esprit de collaboration à chaque étape du projet. Ce n'est pas la manière habituelle de faire, admet M. Vallon. Habituellement, l'industriel développe un produit qu'il propose ensuite à l'architecte, qui aurait préféré autre chose et qui choisit ou non de l'utiliser sans vraiment penser à la réalité du chantier. On ne pouvait pas travailler l'un sans l'autre, enchaîne Hugo Gagnon. Un industriel n'est pas un spécialiste du design et un architecte ne connaît pas les réalités d'un chantier. À quelle vitesse des maçons peuvent-ils installer un produit en particulier? Quelles sont les embûches? Seul l'un d'entre nous pouvait répondre à ces questions. Il fallait innover dans notre approche pour pouvoir espérer créer un produit innovateur. Dans leur enthousiasme, les trois entrepreneurs n'ont pas véritablement discuté d'entente financière ni de partage de retour sur l'investissement. Il a été très peu question d'argent entre nous. Nous étions vraiment motivés par l'idée de créer quelque chose qui répond à un besoin, raconte Lucas Vallon. Une nouvelle boîte à outils. Après 18 mois de recherche, la brique Dual a été lancée au début d'avril. Déjà, elle pourrait être utilisée prochainement dans un projet mené par 9 architectes. La gamme se décline en 3 teintes naturelles, soit Zurich gris, Petra jaune et Belfast rouge, et en 2 formats métriques normande et métrique jumbo. 3 briques du premier équivalent en hauteur à 2 briques du second. Chacune des 6 options présente 2 faces exploitables, l'une lisse et l'autre rainurée. Pour les concepteurs, ce choix de briques représente une toute nouvelle boîte à outils. Au total, l'ensemble permet 12 possibilités de couleurs, d'agencement et de textures, souligne l'architecte, en s'amusant à combiner les différentes briques de manière multiple. La dimension des briques, plus longue que les briques traditionnelles, se traduit par une vitesse d'installation accrue et une diminution du mortier nécessaire à l'édification des murs. Même la forme des alvéoles a été étudiée pour une manipulation facile, donc plus rapide, par les maçons. Cette économie d'installation permet de compenser la différence de prix d'achat. Son coût final est très compétitif, assure le président de Permacon. Les alvéoles surdimensionnées réduisent aussi la quantité de béton nécessaire à la fabrication de la brique. Le choix des couleurs en demi-teinte n'est pas anodin. Il a été réfléchi pour réduire le chauffage et la climatisation des bâtiments. Trop foncé ou trop pâle fait hausser la nécessité de refroidir ou de chauffer, explique M. Gagnon. Autre enjeu, la disponibilité des minerais nécessaires à la production de ces couleurs. Tous les granulats des briques duales proviennent de carrières à proximité de chacune des 9 usines de Permacon au Québec et en Ontario, fait valoir M. Vallon. Ce sont donc des briques biosourcées localement, ce qui réduit aussi leur impact écologique. Les 3 hommes ne le cachent pas. Ils auraient aimé atteindre la cible établie de 30% de l'empreinte carbone, mais une diminution de 20% n'est pas négligeable, juge-t-il. C'est un premier pas. Il y en aura probablement d'autres, conclut Hugo Gagnon. C'était Une brique plus écologique conçue au Québec, un texte d'André Laroche, paru le 26 avril 2025 dans La Presse.
Rompre avec l'illettrisme numérique. Un texte de Louise Maude Rioux-Soucy, paru le 17 mai 2025 dans Le Devoir. Le fiasco SACTLIC est-il la pointe d'un iceberg numérique qui menace le Québec? Chose certaine, à entendre le nouveau ministre de la cybersécurité et du numérique, il vaudrait mieux que les Québécois préparent leurs canots et leurs vestes de sauvetage, car son ministère n'a pas les outils de gouvernance et de gestion nécessaires pour éviter un autre naufrage. Il y a déjà de la houle autour du dossier de santé numérique, DSN, destiné à stocker les données médicales des Québécois. Sa mise en place dans 2 régions vitrines est récemment passée au jaune pour l'échéancier comme pour le coût. Les eaux sont aussi agitées autour de la numérisation des dossiers judiciaires et des registres de tous les palais de justice. L'échéancier est passé au rouge franc avec une augmentation du temps de livraison de 83,8%. La tempête s'est déjà levée autour du projet CIFAR, qui vise la centralisation de la paix, de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des ressources humaines dans le réseau de la santé et des services sociaux. Outre des dépassements de coûts substantiels, des ratés dans les contrats et des retards importants, il faut savoir que le piètre état du chantier, réalisé à seulement 12%, empêche le versement de primes prévues dans les nouvelles conventions collectives du personnel, et ce, plus de 5 mois après la signature de l'entente. C'est gênant. L'aveu d'impuissance du ministre Gilles Bélanger tranche avec les manières de son prédécesseur déchu. Même au plus fort de la tempête entourant la numérisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, Éric Kerr n'avait jamais rien trouvé à se reprocher, hormis de ne pas avoir été assez méfiant. S'il n'avait rien vu, a-t-il répété sur toutes les tribunes, c'est qu'il n'y avait rien à voir dans cette purée de pois. Ni indices, ni feux rouges. Pourtant, des indices et des feux rouges, on sait désormais qu'il n'y en a eu et qu'il n'y en a encore beaucoup, grâce notamment au tableau de bord des projets en ressources informationnelles et à la commission Galland, dont les travaux vont bon train. Ce qu'on y a entendu jusqu'à présent brosse le portrait d'un équipage politique et administratif coupé de son navire, réfugié derrière d'immenses œillères qui suintent la complaisance et l'incompétence. Nouveau capitaine de ce paquebot branlant, le ministre Bélanger a commencé à faire le tour des projets de transformation numérique en cours au gouvernement. Et ce qu'il voit dans sa lunette enfin dégagée ne lui plaît pas du tout. L'octroi de contrats et la gestion de projets en transformation numérique sont une bête noire pour les gouvernements d'un peu partout dans le monde. Le Québec n'y échappe pas, avec retard, explosion de coûts et abandon à la clé. Entre 2006 et 2015, le vérificateur général a publié 4 rapports frappant sur les mêmes clous. Des projets mal conçus, mal préparés et mal exécutés. Toute ressemblance avec ce qui mine le dossier CASA, SACLIC, ou le DSN, ou le CIFAR, ne saurait être fortuite. La même litanie guette encore et crier « iceberg droit devant » ne suffira pas. Oui, le gouvernement Legault a terriblement manqué de vigilance et promet de se ressaisir. Mais en a-t-il même les moyens? Si nous en sommes encore à piétiner sur ce front, c'est aussi parce que l'État québécois accuse un vrai retard en matière de littératie numérique. Le commissaire Galland a remué le couteau dans la plaie récemment en comparant le travail des administrateurs de la SAAC à un acte de foi envers les personnes chargées de présenter le projet. L'illettrisme numérique généralisé de ses décideurs et de ses administrateurs nuit grandement au Québec. Son fort penchant pour la sous-traitance aussi, car ce dernier freine le développement des expertises locales en plus de lui coûter fort cher. Ici, c'est la moitié des budgets de technologie de l'information, TI, qui est attribué à des ressources externes. Ailleurs, au Canada, cette proportion va plutôt de 17 % à 35 %. Il faut dire que le boom phénoménal des TI ces dernières années reste très concentré. Les 6 premières économies du monde accaparent 70 % de la valeur ajoutée mondiale de ce secteur, selon le groupe de la Banque mondiale. Cela rend les innovations et les prises en charge locales encore plus difficiles, spécialement quand les bugs et les pannes surviennent. On l'a bien vu quand la SAAC a été paralysée durant 40 heures. Si la Société d'État a été prompte à montrer Microsoft du doigt, elle a dû se rétracter après que des indices ont laissé entrevoir de mauvaises manipulations à l'interne. Qui a fauté? La SAAC est toujours incapable de le dire et a dû mandater une firme externe pour obtenir un audit neutre capable de trancher l'affaire dans le vif. Ça ne va pas du tout. Il faut reprendre le contrôle de notre transformation numérique. Et pour naviguer dans ces eaux profondes et agitées, il faudra plus que de bonnes jumelles au ministre Bélanger. Le projet de loi 82 est censé lui dégager de la marge de manœuvre, mais il devra aller bien plus loin dans ses efforts pour que le Québec rattrape son retard numérique. C'était « Rompre avec l'illettrisme numérique ». Un texte de Louise Maude Rioux-Soucy, paru le 17 mai 2025 dans Le Devoir.
Le vélo à assistance électrique, est-il un sport valable? Un texte de Catherine Handfield, paru le 10 mai 2025 dans La Presse. Le vélo à assistance électrique, VAE, conquiert un nombre croissant d'adeptes, mais à quel point procure-t-il un exercice physique valable? Tour des études avec deux chercheurs en kinésiologie. VAE en hausse. Le marché du vélo à assistance électrique, ou VAE, est en pleine croissance. En Europe, où la culture cycliste est plus développée, les Pays-Bas et l'Allemagne ont franchi une étape importante dans la dernière année, rapporte le magazine anglais Cycling Electric. Le volume de vente des VAE dépasse désormais celui des vélos traditionnels. Au Canada, le VAE occupe une moins grande part du marché. Les revenus constituaient la moitié de ceux des vélos ordinaires en 2024, selon Statistica. Mais l'industrie prévoit une hausse constante dans les prochaines années. Étude canadienne. Quel niveau d'exercice procure le VAE? C'est la question à laquelle le chercheur Michael Jenkins a voulu répondre dans son projet de maîtrise à l'Ontario Tech University. Il a recruté 21 personnes âgées de 60 ans et plus et capables de pédaler. Et il leur a fait faire des trajets d'environ 10 km avec et sans charge pour simuler le transport de marchandises. Nous leur avons demandé d'utiliser l'assistance au niveau qui, selon eux, représenterait le mieux leur utilisation, explique M. Jenkins. Pas d'assistance, assistance légère, assistance modérée ou assistance élevée. L'équipe a mesuré leur fréquence cardiaque. Résultat, la grande majorité des participants, 19 sur 21, ont atteint une intensité dite modérée sur le VAE. Intensité modérée. Les résultats de Michael Jenkins, publiés en 2023 dans la revue Journal of Transport and Health, sont conformes à la littérature scientifique. Le VAE permet, en général, d'atteindre une intensité modérée, légèrement moindre que le vélo ordinaire, mais supérieure à la marche, comme en témoignent les résultats dans le tableau ci-dessus, rapporté en équivalent métabolique, MET, une unité de mesure d'intensité. L'intensité est modérée entre 3 et 6 MET et vigoureuse à partir de 6 MET. Recommandation. Le VAE peut donc contribuer à atteindre les recommandations en matière d'activité physique. 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine. Pour atteindre le niveau modéré, à quel point faut-il utiliser l'assistance? Si quelqu'un met l'assistance maximale tout au long du parcours, il n'aura peut-être pas les mêmes résultats, convient Michael Jenkins. L'effort fourni dépend du niveau d'assistance choisi, dit-il. Dans son étude, certains participants étaient plutôt dans l'intensité vigoureuse, tandis que d'autres tendaient plus vers une intensité légère, souligne le chercheur. Souffle. Comment savoir si on est dans une intensité modérée? Mylène Aubertin-Leheudre, professeure de kinésiologie à l'UQAM, conseille de se fier à son souffle. À intensité légère, on peut parler sans problème. À intensité modérée, on commence à chercher son souffle. Et à intensité élevée, on ne peut plus discuter, explique-t-elle. Les gens en forme peuvent limiter le niveau d'assistance en la mettant à la fin de la côte plutôt qu'au début, illustre-t-elle. Cela dit, tout effort est bon, dit-elle. Quand on est dans une activité légère, ça permet de combattre la sédentarité. Et quand on est dans le modéré ou le vigoureux, on devient actif, ce qui est très bon pour la santé. Adaptabilité. Le grand avantage du VAE, c'est qu'on peut ajuster l'assistance à ses besoins du moment, souligne le chercheur Michael Jenkins. Si on veut s'entraîner, on en met peu ou pas. Et si on veut éviter d'arriver en âge au travail, on en met davantage, résume-t-il. Et c'est toujours intéressant de pouvoir se dire « j'ai une béquille au cas où », ajoute Mylène Aubertin Le Heudre. « Cette béquille est suffisante, dit-elle, pour convaincre des gens de prendre leur VAE plutôt que de rester chez eux ou de prendre l'automobile. » Le VAE permet également de faire des sorties de vélo avec des gens plus en forme. Avec mon VAE, je suis enfin capable de suivre mon conjoint lors de ses sorties en estrie, lance Mme Aubertin Le Heudre. Distance plus longue. Les études ont aussi montré ceci. Les propriétaires de vélos à assistance électrique en font plus souvent et sur de plus longues distances. C'est ce qu'ont montré des sondages, mais aussi de petites études expérimentales. Dans un essai clinique, des chercheurs ont remis à des adultes soit un vélo ordinaire, soit un VAE. Ils ont suivi leur déplacement pendant 3 mois. Les participants qui avaient des VAE parcouraient plus de kilomètres par semaine, une médiane de 20 contre 12 kilomètres, et roulaient plus longtemps, 63 contre 51 minutes. Qui plus est, le VAE diminuait davantage le recours à l'automobile que le vélo ordinaire. C'était « Le vélo à assistance électrique, est-il un sport valable? » Un texte de Catherine Hanfield, paru le 10 mai 2025 dans La Presse.